VOA Afrique.
Le monde aujourd'hui. À Washington.
Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Il est 18h30 en temps universel. Jacques Aristide dans votre compagnie. Très content de vous retrouver pour Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Les titres en ce jeudi 13 septembre 2018. Deux Français inculpés pour un projet d'assassinat d'un opposant du Congo-Brazzaville. Épidémie de choléra au Niger et au Zimbabwe. Les derniers bilans font état de plusieurs morts. On déplore également un manque de médicaments. Plusieurs autres foyers sont actifs sur le continent.
Il faut vraiment mettre en place des mesures de prévention du choléra. Et c'est le seul moyen qui permettra d'éviter qu'on ait comme ça régulièrement des épidémies qui reviennent toujours aux mêmes endroits.
Un homme d'un optimisme tenace, un ultime hommage à Kofi Annan ce jeudi lors de ses funérailles nationales au Ghana. Ici aux États-Unis, le président Trump conteste le nombre de victimes de l'ouragan Maria au moment où un nouvel ouragan menace la côte est du pays. Et puis, comme à l'accoutumée, vos rubriques économiques et sportives à venir dans 10 minutes. Deux Français d'une cinquantaine d'années, soupçonnés d'avoir projeté l'assassinat d'un opposant originaire du Congo-Brazzaville, ont été inculpés à Lyon. Les deux hommes ont été inculpés pour participation à une association de malfaiteurs et détention d'explosifs, puis placés sous contrôle judiciaire contre l'avis du parquet qui a fait appel. Un troisième homme a été placé sous le statut de témoin assisté. La justice leur reproche d'avoir projeté d'assassiner dans les prochaines semaines un opposant au régime du Congo-Brazzaville. Brazzaville, domicilié en région parisienne, l'identité de cette cible n'a pas été divulguée, pas plus que le mode opératoire des auteurs présumés du complot. Le parquet de Lyon a ouvert une information judiciaire. Une épidémie de choléra a tué 55 personnes au Niger sur plusieurs milliers de malades recensés dans la région de Maradi. Il s'agit d'un nouveau bilan établi par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU de Niamey. L'OCHA indique que l'épidémie s'est étendue à trois régions, dont Dosso, Taroua et Zinder. La surveillance est renforcée à Diffa, autre région du sud-est nigérien. L'épidémie s'est déclarée début juillet dans la partie sud des régions affectées, proche du Nigeria, où le choléra sévit dans certains États fédérés. Une épidémie de choléra sévit également au Zimbabwe, où le dernier bilan du ministère de la Santé fait état de 25 morts. D'après le ministre Obadia Moyo, le nombre de cas a augmenté de 600 pour atteindre plus de 3760. La situation est compliquée par la résistance à deux antibiotiques ainsi qu'au manque de médicaments, de fluides intraveineux et de vêtements de protection selon un rapport conjoint du ministère zimbabwéen de la Santé et de l'OMS qui dénonce des égouts bouchés et un approvisionnement en eau erratique. Nous reviendrons sur les multiples épidémies de choléra qui sévissent en Afrique tout à l'heure dans la partie magazine. Au Mali, 20 personnes tuées et 63 autres sauvées par les secours. C'est le bilan d'un accident de car dans la région de Ségou. Le véhicule a fini sa course dans le fleuve Niger. Les recherches se poursuivent. Selon les premiers éléments de l'enquête, une défaillance technique serait à l'origine de cette tragédie de Bamako. Le compte-rendu de Kassim Traoré.
Ils étaient 80 personnes qui revenaient du marché hebdomadaire de Koué avant de traverser le fleuve. Le système de freinage de leur car a lâché et le véhicule s'est renversé dans le fleuve.
Juste en face de Matina, à la fin de la route latéritique, là où le bac devrait prendre le car, et c'est à ce niveau-là que le frein a lâché vers le lundi vers 21h. Et c'était ce qui a amené que le véhicule est descendu dans l'eau avec tous ses passagers.
Malgré les efforts des habitants, il fallait attendre la grille mobile pour faire sortir le maximum de corps de l'eau.
Hier, quand on a fait venir au gris de Ségou pour enlever le quart de l'eau, c'est à partir de ça qu'on a pu, hier, on a pu faire sortir 17 corps. Lundi soir, à 21h, lorsque le quart est descendu, on a pu enlever deux corps. Le lendemain, mardi, on a enlevé un corps soir. Et hier, on a fait sortir 17 corps.
Cet accident est l'une des conséquences du transport mixte au Mali, car en plus des personnes, il y avait des animaux et de la marchandise. Compte tenu de la situation géographique et dangereuse de la zone, aucun ministre n'est encore arrivé sur les lieux. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
En Guinée, au moins 4 personnes ont été tuées ces derniers jours lors d'éboulements dans 2 mines artisanales. Dans ce pays, Nanit Talani, des milliers de personnes mettent leur vie en péril en exploitant clandestinement le sous-sol.
Selon des sources officielles et des témoins, les accidents se sont produits dimanche et mercredi dans des mines de Kitinya, près de Sigiri, dans l'extrême nord-est du pays. Les creuseurs artisanaux, qui s'y comptent par milliers, viennent notamment de la Guinée, mais aussi du Mali, du Sénégal, du Burkina Faso, du Libéria et de la Côte d'Ivoire. Travaillant généralement pour des salaires de misère et sans la moindre sécurité, ils ne disposent habituellement que d'un équipement rudimentaire. Ils sont estimés à plus de 20 000 rien que dans la région de Sigiri, selon les autorités. Le sous-préfet de Kitinya, Aliou Guissé, a pourtant lancé des appels pour que les orpailleurs évitent de se rendre dans des mines en cette période dite d'hivernage, caractérisée par de fortes pluies.
Au Soudan du Sud, le nouvel accord de paix qui vient d'être signé par le président Salva Kiir et le chef rebelle Riek Machar est accueilli ce jeudi avec prudence, voire scepticisme. Des Sud-Soudanais se disent là des vaines promesses des dirigeants du pays et des multiples cessez-le-feu violés depuis le début du conflit fin 2013. Selon le nouvel accord de paix obtenu au terme d'un processus ayant duré de nombreux mois sous l'égide de l'organisation régionale IGAD, Salva Kiir demeure président tandis que Riek Machar retrouve son ancien poste de premier vice-président. En Éthiopie, des échauffourées ont éclaté ce jeudi à Addis Abeba. De jeunes manifestants se sont opposés aux forces de l'ordre 2 jours avant le retour des dirigeants d'un ancien groupe rebelle populaire parmi la jeunesse Oromo, la première ethnie du pays. Les causes précises de ces échauffourées ne sont pas connues ce soir, mais des jeunes manifestants brandissaient une ancienne version du drapeau éthiopien. Ce drapeau était devenu l'un des symboles des manifestations antigouvernementales qui avait poussé l'ancien Premier ministre Haïlé Mariam Dessalegn à démissionner et déboucher sur la nomination du réformateur Abiy Ahmed, lui-même un Oromo à la tête du gouvernement. Et puis Paris réaffirme sa volonté de voir se tenir en Libye des élections d'ici la fin de l'année, en dépit des fortes réserves de Tripoli et de Rome sur ce calendrier. Le Premier ministre libyen Fayez Sarraj, qui dirige le gouvernement reconnu par la communauté internationale, a estimé hier que l'instabilité en Libye ne permettait pas l'organisation d'élections à court terme, remettant en cause l'agenda défendu par la France pour tenter de sortir le pays du chaos. L'ONU, dont le Conseil de sécurité a approuvé ce jeudi à l'unanimité une prolongation d'un an de sa mission politique en Libye, sans toutefois retenir la date du 10 décembre pour la tenue de la présidentielle et des législatives dans ce pays.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'ouragan Florence qui menace la côte atlantique des États-Unis a été rétrogradé en catégorie 2 sur l'échelle Saffir-Simpson qui en compte 5, mais il n'en reste pas moins dangereux d'après des météorologues. Nathalie Barge.
Une montée des eaux et des chutes de pluie potentiellement mortelles sont attendues, a prévenu le Centre national des ouragans. Florence se déplace à 20 km à l'heure, indiquent les prévisionnistes, estimant que la tempête avancera lentement le long de la côte vendredi et samedi. Ils affirment par ailleurs que l'onde de tempête pourrait entraîner l'inondation de certaines zones avec jusqu'à 4 mètres d'eau à l'intérieur des terres. L'état d'urgence est déclaré en Caroline du Nord, Caroline du Sud, Virginie et Géorgie. Environ 10 millions de personnes vivent dans des zones soumises à des alertes et près de 2 millions ont été sommés de se mettre à l'abri loin du littoral. Des destructions généralisées sont à redouter. 3 millions d'usagers risquent d'être privés d'électricité et les réparations pourraient durer plusieurs semaines. Nous sommes totalement prêts pour l'ouragan Florence, soyez prudents, a tweeté ce matin le président Donald Trump.
Alors que ce nouvel ouragan approche la côte est des États-Unis, une nouvelle polémique fait rage. Le président Donald Trump conteste le bilan officiel des victimes de l'ouragan Maria sur Porto Rico en septembre de l'année dernière, bilan qui avoisine les 3000 morts. Retour sur l'actualité africaine, je vous le disais en titre, c'était un homme d'un optimisme tenace. Ce sont les mots d'Ama Annan, la fille de feu Kofi Annan. Un ultime hommage a été rendu ce jeudi à l'ancien secrétaire général de l'ONU lors des funérailles nationales au Ghana, son pays natal, à Bagassé Koura.
Le cercueil de Kofi Annan recouvert du drapeau du Ghana était posé devant des centaines de personnes avec au premier rang sa famille proche, tous habillés de noir. Trois anciens présidents ghanéens ainsi que des chefs d'État d'Afrique de l'Ouest étaient également présents. Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU et ami personnel, a rappelé que, je cite, Kofi Annan était les Nations Unies et les Nations Unies, c'était lui. Le président Nana Akufo-Addo l'a désigné comme une icône des temps modernes. Pendant plus de trois heures, les discours ont alterné avec des chants religieux. Seule la famille et les plus proches se sont rendus au cimetière militaire d'Accra où est enterré Annan après un deuil national de trois jours. Décédé le 18 août à l'âge de 80 ans en Suisse, après une brève maladie, Kofi Annan avait consacré quatre décennies de sa vie aux Nations Unies. Il avait reçu conjointement avec l'ONU le prix Nobel de la paix peu après les attaques du 11 septembre 2001 aux États-Unis.
Voilà pour les nouvelles qui dominent l'actualité africaine et mondiale ce soir. Sans plus tarder, un condensé des nouvelles économiques en Afrique, il est l'heure de la Minute Éco avec Eric Manirakiza.
Le Fonds de développement Chine-Afrique veut introduire de nouveaux partenariats stratégiques dans Askai Airlines, la compagnie panafricaine basée à Lomé. Parallèlement au secteur aéronautique, ce fonds a également l'intention de se positionner sur le projet d'extension du port de Lomé et aussi investir dans l'infrastructure, l'énergie hydroélectrique, l'exploitation des ressources et le projet de création d'un parc industriel au Togo. L'ABAD a octroyé au Tchad 24,7 millions de dollars pour la mise en place de plusieurs infrastructures dans le secteur de l'eau et de l'assainissement. Il est prévu la construction de 48 châteaux d'eau, 135 ouvrages d'assainissement collectif et 7 centres multifonctionnels pour les femmes. Actuellement, le taux d'accès à l'eau potable n'est que de 55% environ. Le programme d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement en milieu semi-urbain et rural couvrira 5 régions du pays sur 3 ans. L'économie mauricienne envisage une augmentation de sa croissance à 4% en 2019. La plus grande banque du pays, la MCB, se fonde sur les investissements dans les infrastructures, notamment les chemins de fer et les routes, et le secteur du bâtiment. Port-Louis va investir 453 millions de dollars dans la construction de 3000 logements sociaux, de nouveaux bâtiments pour la police, le nouveau Parlement et la Cour suprême. Pour l'année prochaine, ce financement augmentera de 15%.
Et maintenant, un tour d'horizon de l'actualité sportive avec Nicolas Pineau. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Jacques, bonsoir à tous.
Soupçon de corruption dans le football rwandais.
Ah oui, la polémique qui ample suite à l'ouverture d'une enquête concernant deux dirigeants de la Fédération rwandaise de football. L'arbitre namibien Jackson Pavaza affirme avoir été approché pour manipuler le résultat du match entre le Rwanda et la Côte d'Ivoire, comptant pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Cette rencontre s'était soldée par la victoire des éléphants de buts à 1. Ces allégations de corruption font actuellement l'objet d'une enquête de la part du Rwanda Investigation Bureau. Le secrétaire général de la fédération, Uwayezu François Régis, et le responsable des compétitions, Eric Rouamiriza, auraient été interpellés.
La FIFA veut du changement dans le marché des transferts.
Ah oui, la FIFA qui prévoit de limiter entre 6 et 8 le nombre de joueurs qu'un club peut prêter chaque saison. Cette mesure vise à garantir l'équité sportive entre les clubs et à endiguer un phénomène qui voyait des clubs, notamment anglais et italiens, engager un grand nombre de joueurs et à les prêter aussitôt. Autre proposition de la FIFA, la création d'une chambre de compensation gérée par une banque chargée de collecter et de reverser aux clubs formateurs les indemnités de formation prélevées sur chaque transfert.
Du cyclisme en Côte d'Ivoire.
L'Ivoirien Issek Assissé, décidément, est arrivé encore en tête de la cinquième étape du Tour de Côte d'Ivoire ce jeudi à Bandoukou. Comme lors de la quatrième étape, il a devancé le Burkinabé Abdulaziz Nikema. Le Ghanéen Anthony Boakai complète le podium. C'est la troisième victoire de suite pour Sissé qui conserve ses 2 minutes 31 secondes d'avance sur le Camerounais Clovis Kamzongo Abesolo au classement général.
Et puis Nicolas, qui organisera les JO d'hiver de 2022 ?
Après Pékin en 2022, quelle ville va accueillir les Jeux Olympiques d'hiver en 2026 ? La réponse ne sera connue que dans un an, mais en tout cas, la liste des prétendants s'est réduite. On compte comme candidat à l'organisation de ces JO d'hiver Calgary au Canada, Erzurum en Turquie, Sapporo au Japon, Stockholm et enfin un trio italien, Milan, Turin, Cortina d'Ampezzo.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Il est l'heure maintenant d'aborder notre tranche magazine dans Le Monde aujourd'hui. Jacques Aristide toujours avec vous. Merci pour votre fidélité à VOA Afrique. En Mauritanie, l'esclavage est officiellement aboli depuis 1980, mais des cas liés au sujet sont souvent traités par les tribunaux grâce à l'appui d'ONG anti-esclavage. Des abolitionnistes comme Biram Ould Dah sont souvent emprisonnés pour leur militantisme. Et l'un de ces militants, Boubacar Messaoud, président de SOS Esclavage en Mauritanie, séjourne ici aux États-Unis pour rencontrer ses partenaires et des organisations des droits humains. La communauté internationale s'intéresse-t-elle vraiment à l'esclavage en Mauritanie? Abdourahman Dia a posé la question à Boubacar Messaoud.
Il est très clair pour nous, en tout cas, que si la communauté internationale ne s'y intéresserait, c'est pas tous les gouvernements mauritaniens qui se sont succédés n'auraient jamais accepté de faire les concessions qui ne sont encore que très modestes qu'ils ont déjà faites.
Vous dites que les concessions du gouvernement mauritanien sont modestes, mais le gouvernement dit que l'esclavage est aboli. Et quelle est un peu la situation?
Oui, le gouvernement nie que l'esclavage existe. Le gouvernement soutient et défend partout qu'il n'y a que des séquelles. Alors que nous présentons périodiquement des victimes d'esclavage que nous assistons au niveau des tribunaux contre leurs maîtres, les gens qui les exploitaient, les réclamons le retour de leurs enfants ou de leurs mères ou de leurs descendants qui sont restés encore chez les maîtres dans la campagne. Qui dure depuis que l'abolition a été déclarée en 1981. Et je me demande comment on peut déclarer en 1981 que l'esclavage est aboli sur toute l'étendue du territoire et en même temps dire qu'il n'existe pas.
Donc, dans les textes, l'esclavage n'existe plus, mais dans la pratique, c'est autre chose.
Mais dans la pratique, c'est autre chose. Il est certes que l'esclavage n'est pas comme il était il y a 100 ans ou il y a 50 ans avant l'indépendance. Mais il ne peut pas continuer à disparaître, à s'effacer au rythme du temps, tout simplement, parce que c'est très long. Actuellement, il en reste des esclaves. Nous continuons à déplorer qu'il n'y ait pas des mesures radicales permettant à tout un chacun de savoir que l'esclavage est totalement proscrit.
Quand vous parlez de mesures radicales, vous pensez à des peines sévères contre les auteurs?
Je parle des peines sévères d'abord, qu'il faut exécuter aussi. Je parle des sommes qu'on devrait exiger pour la réparation. Je parle des réparations que les maîtres d'esclaves devraient affronter, devraient être obligés de réparer, parce que nous avons des esclaves qui n'ont absolument rien, qui sont totalement démunis, surtout quand ce sont des esclaves qui étaient des bergers, qui étaient dans la nature avec des animaux et leurs maîtres. Ils avaient juste un endroit pour dormir. Et quand ils viennent dans la ville, ils s'installent dans les bidonvilles et ils n'ont pratiquement pas grand-chose.
On écoutait Boubacar Messaoud, président de SOS Esclavage en Mauritanie, interrogé ici à Washington.
Cette semaine, dans Washington Forum, gros plan sur le Proche-Orient. L'administration Trump a ordonné cette semaine la fermeture de la représentation palestinienne à Washington, une mesure qui intervient après d'autres, comme le transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem. Les accords israélo-palestiniens d'Oslo ont déjà 25 ans, ils avaient suscité un espoir de paix, mais aujourd'hui, les affrontements se multiplient le long de la frontière avec Gaza, l'enclave est sous blocus israélien, la Cisjordanie est toujours occupée et la colonisation israélienne continue. Peut-on parler d'impasse? Que reste-t-il à négocier? Morgane Guerrier, en votre compagnie, on en discute ce jeudi à 19h temps universel.
Au Burundi, le principal opposant et ex-rebelle Hutu Agathon Rwasa a créé un nouveau parti politique dénommé Front National pour la liberté, Amizero ya Barundi, comprenez espoir des Burundis. Le but de ce parti, d'après ses fondateurs, est d'obtenir l'agrément des autorités pour participer aux élections générales prévues en 2020. Yakuba Ouedraogo a joint Agathon Rwasa, président de cette nouvelle formation politique.
C'est notre droit, puisque la loi burundaise reconnaît à tout citoyen le droit de pouvoir créer un parti politique. Mais aussi et surtout, il y a une grande contrainte. De par comment la constitution est bâtie, il n'y a pas vraiment de l'espace pour les indépendants. Et nous pensons que nous ne pouvons pas laisser le champ libre au seul parti au pouvoir. Il faut qu'on soit dans la compétition en 2020.
En ce que vous étiez constitué en indépendant, vous avez évoqué une contrainte constitutionnelle. Dites-nous, quelle est cette contrainte-là?
Il y a une contrainte de par la formulation de la loi burundaise, spécifiquement la Constitution qui, dans son article 81, reconnaît aux partis politiques le droit de se coaliser lors des élections et refuse catégoriquement ce droit aux indépendants dans l'article 86. Et pire encore, avec l'article 174 dans son deuxième alinéa, qui demande aux indépendants de totaliser au minimum 40% des voix exprimées dans une circonscription, alors que le premier alinéa de cet article demande uniquement 2% pour les partis et coalitions de partis pour pouvoir avoir un siège au Parlement. Vous comprenez qu'il y a du deux poids deux mesures et que vraiment l'espace est clos pour ce qui est des indépendants. Alors nous pensons que la meilleure façon de contourner ce blocage-là, c'est de se constituer un parti politique.
Vous aviez juste créé ce parti politique-là pour vous conformer à la Constitution?
Pas nécessairement, c'est beaucoup plus pour pouvoir avoir le droit de participer aux prochaines séances électorales.
À quelle échéance pensez-vous?
À l'heure actuelle, c'est 2020.
Vous serez candidat en 2020? Pour la présidentielle?
Je ne sais pas. Ça serait aller trop vite.
Vous avez dénommé le parti Front National pour la Liberté à Misero Yabarundi. Pourquoi cette appellation?
Tout d'abord, nous pensons que les Burundais ont besoin de la liberté. Ils ont droit à une bonne gouvernance, à une meilleure gouvernance. Les Burundais ont besoin du changement. Et nous jugeons qu'il faut qu'il y ait un nouvel élan dans la politique burundaise.
Quel pourrait être cet nouvel élan-là?
Pour nous, nous pensons que nous devons y aller avec l'idée de venir au service de la population et pouvoir répondre aux aspirations des autres.
Qu'est-ce que votre parti offre politiquement aux Burundais?
On offre aux Burundais d'abord la chance de pouvoir opérer un choix lors des élections. On a des formations politiques pour la plupart qui sont juste là pour les intérêts sectaires. Maintenant, il faut quand même que les gens puissent aller dans quelque chose qui puisse réellement être à l'écoute des citoyens et qui puisse chercher des solutions aux problèmes de l'heure.
Agathon Rwasa, président du Front National pour la Liberté à Misero Yabarundi, joint à Bujumbura.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Bujumbura sur 94.9 FM au Burundi.
Je vous le disais un peu plus tôt, une vague d'épidémie de choléra sévit sur le continent africain où plusieurs pays sont touchés. Les cas les plus répandus sont en RD Congo, au Zimbabwe et au Niger, où 55 personnes sont mortes sur plusieurs milliers de malades recensés dans la région de Maradi. Pourquoi cette recrudescence de la maladie en Afrique? Nanit Talani a joint Dominique Legros, chargé du programme choléra à l'OMS Genève.
Il y a beaucoup de cas de choléra parce que depuis des années et des années, on a concentré la réponse sur l'urgence, sur la réponse aux épidémies, sur le traitement des cas. Ce qui est bien sûr très important, c'est même fondamental. Mais il faut aller plus loin que ça. Il faut vraiment mettre en place des mesures de prévention du choléra. Et c'est le seul moyen qui permettra d'éviter qu'on ait comme ça, comme vous le dites régulièrement, des épidémies qui reviennent toujours aux mêmes endroits. Et c'est pour ça qu'on a lancé l'année dernière une stratégie de contrôle qui a été validée par les ministres de la Santé africains le mois dernier au cours du comité régional s'est tenu à Dakar.
Mais en ce qui concerne le Zimbabwe, il est dit que des médicaments manquent pour soigner les personnes atteintes. Qu'est-ce qui explique qu'il y ait manque de médicaments au Zimbabwe actuellement?
Il faut voir que le cas du Zimbabwe est assez particulier parce que l'épidémie a démarré le 5 septembre. Les premiers cas ont été rapportés le 5 septembre. Et là, 8 jours plus tard, on a déjà plus de 2000 cas. Donc ça crée dans ces cas-là un afflux comme ça de patients extrêmement soudain dans les structures de soins qui peuvent expliquer que dans certains cas, on ait des manques de traitement. Mais on est en train d'envoyer des guides choléra pour pallier à ça. Des partenaires comme MSF en particulier ont établi des centres de traitement spécialisés du choléra. Je pense qu'il va falloir qu'on en fasse encore plus.
Il y a un cas curieux quand même parmi tous les pays touchés actuellement, l'Algérie, puisque ce pays n'a pas connu de choléra depuis 1994. Alors, qu'est-ce qui fait que l'Algérie aujourd'hui connaisse cette épidémie, d'autant plus que ce pays n'est pas frontalier avec des endroits où il y a, où l'épidémie fait souvent rage.
Oui, alors on n'a pas beaucoup d'informations sur ce qui se passe en Algérie et je dois dire que d'un point de vue épidémiologique, c'est effectivement assez surprenant et difficile à comprendre. Il n'y a pas eu, comme vous le dites, d'épidémie de choléra en Algérie depuis plus de 20 ans. Ce qu'on observe dans les pays comme ça, c'est souvent des cas importés. On en a même en Europe ou en Amérique du Nord. Alors parfois, dans certains endroits, on a donc un premier cas importé d'une zone endémique. Un voyage en avion, par exemple. Et puis, parfois, ce cas importé va donner quelques cas secondaires. Ça peut se voir. Mais ce qui nous est rapporté en Algérie, c'est une situation assez différente, avec quelque chose qui explose comme ça, dans plusieurs zones en même temps. Donc, c'est assez difficile à comprendre d'un point de vue épidémiologique. Et on aimerait bien avoir un peu plus d'informations. On attend en particulier les résultats des investigations, comprendre d'où ça vient, comment ça a pu se propager, est-ce que les souches ont été envoyées à des laboratoires internationaux, etc. etc.
Alors, que fait exactement l'OMS pour aider les pays concernés à endiguer l'épidémie de choléra?
On aide sur tous les aspects de prise en charge des patients. On envoie presque systématiquement ce qu'on appelle des kits choléra qui comprennent l'ensemble du matériel et des traitements nécessaires pour prendre en charge les patients. On aide également sur tout ce qui va être le renforcement de la surveillance et des capacités de diagnostic et de confirmation des cas.
Docteur, pensez-vous vraiment qu'il soit possible de remporter la victoire contre le choléra?
Bien sûr, je n'ai aucun doute là-dessus.
Dominique Legros, chargé du programme choléra à l'OMS à Genève.
La Voix d'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Au Nigeria, la religion et la tradition constituent toujours un obstacle à la participation des femmes à la vie politique et principalement dans le nord du pays. Alors que les femmes réclament plus de place sur l'échiquier politique, VOA Afrique est allée à la rencontre des activistes qui militent pour améliorer cette situation. Le reportage de Gilbert Tamba, notre correspondant au Nigeria.
S'est lancé dans l'arène de la politique nigériane dominée par les hommes, de surcroît dans le nord-est du pays, conservateur, est toujours une décision difficile pour une femme. La plupart des hommes politiques considèrent que la place de la femme est à la cuisine. Sera Djibril a été la première candidate à une élection présidentielle au Nigeria en 1992 et en 1998 contre Olusegun Obasanjo, qu'elle a perdu, et ensuite contre l'ancien président Goodluck Jonathan en 2011.
The point was that women were being kept.
Mon objectif était de montrer que nous, les femmes, nous sommes bloquées et gardées dans l'ignorance et les hommes s'accordent plus de respect eux-mêmes et les utilisent contre les femmes. Ils piétinent ensuite les vertus des femmes et les empêchent de s'impliquer dans la politique. Et je ne suis jusqu'à présent pas satisfaite.
C'est sans surprise qu'elle a été battue par Goodluck Jonathan aux primaires du PDP. Ça, c'était il y a 7 ans. Cependant, pas grand-chose n'a changé pour les femmes comme elle, qui se battent pour l'égalité de représentation et de participation dans le domaine politique au Nigeria. Princesse Hartman Nobel est activiste des droits des femmes au Nigeria.
Il est vrai que la religion et la croyance culturelle constituent un obstacle à la participation des femmes en politique. Mais cela a aussi évolué avec le temps, puisqu'au-delà des obstacles de la tradition, de la religion et de la culture, nous avons d'autres choses récentes qui découragent les femmes à s'impliquer dans la politique. Si nous prenons par exemple l'achat des consciences pendant les périodes électorales, les femmes ne peuvent pas mobiliser de tels montants.
5 élections générales ont eu lieu au Nigeria depuis 1999, année qui marqua le retour du pays à la gouvernance démocratique au terme de longues années de dictature militaire. Depuis, seule une poignée de femmes ont occupé des fonctions officielles. Cette situation est d'autant plus étonnante que le Nigeria est le pays le plus peuplé d'Afrique et que dans d'autres pays du continent africain, des progrès considérables ont été accomplis dans ces domaines. Les causes de la sous-représentation des femmes dans la politique nigériane sont multiples. Djibril Ibrahim est professeur de sciences politiques à l'université d'Abuja.
Je pense souvent les hommes ont peur. Beaucoup de ces femmes-là sont compétentes. Beaucoup d'entre eux ont joué un rôle important dans la vie communautaire. Ils sont bien connus dans leur communauté. Donc, c'est les femmes qui ont le potentiel de gagner. Et c'est pour les bloquer que les hommes qui veulent les concurrencer cherchent de les détruire.
Le Nigeria est un État multiconfessionnel avec une population de près de 200 millions d'habitants aujourd'hui.
Point final au monde aujourd'hui. La mise en onde a été assurée par Cheikh Thierro. Merci, chers amis fidèles de la VOA, de nous avoir accueillis chez vous ce soir. C'était Jacques Aristide à Washington. Je vous souhaite une excellente soirée sur VOA Afrique. À très bientôt.